Cube Radio.
Est-ce que la liberté d'expression est menacée dans les universités? Bon, on va en parler justement avec un académicien, comme on dit, là, un intellectuel, historien, ex-candidat à la course à la chefferie du Parti québécois, Frédéric Bastien. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Richard.
Bonjour. Alors, le fameux mot en N, et là, Frémont
oui,
qui
alors
dit...
Le mot nègre, oui, alors on peut le dire, hein? Comme moi, je le dis.
C'est ça. Ben là, il y a la grosse question. Je parlais de ça à ma blonde. J'ai dit, coudonc, on le dit-tu en onde ou on le dit pas en onde? Ben, tu sais, ça dépend du condamnement. Il faut expliquer ce qui se passe, là. Ben, tout le débat est autour de ce mot-là. Il faut quand même l'utiliser pour dire ce que c'est. Mais toi, Frédéric, t'as sorti, justement, et ça, c'est très intéressant, un jugement de la Commission ontarienne des droits de la personne, où on parle, le mot nègre revient 20 fois dans l'arrêt.
Oui, c'est ça. Et c'est justement une cause de discrimination. Et là, donc, il y a le mot nègre qui apparaît, nigger en anglais, dans cette cause. Et là, ça serait vraiment, on arriverait au paradoxe suivant où un professeur de droit à l'Université d'Ottawa ou une université qui aurait une politique similaire ou un recteur aux vues semblables à celle de M. Frémont ne pourrait plus expliquer cette cause-là de discrimination raciale contre un noir. Et où le mot, justement, nègre revient mentionné dans le jugement, parce que c'est de ça, exactement de ça dont il s'agissait, c'est-à-dire de discrimination raciale contre quelqu'un, en tout cas allégué, à tout le moins, au départ. Et donc, tout ça pour dire que ça montre à quel point on est rendu complètement dans l'absurde. C'est vraiment un nouveau... on atteint des niveaux d'absurdité là, sans précédent, parce que C'est dans le cas précis de... Il y a deux choses dans tout ce débat-là. Il y a d'abord, évidemment, la liberté académique, la liberté d'expression, donc la liberté du professeur d'exprimer une opinion, parce que ce que beaucoup de professeurs font, ou la liberté d'expression en général. Mais on est dans plus que ça. On est... Là, maintenant, c'est qu'on remet en cause la transmission du savoir et de la connaissance, qui est la mission fondamentale de l'université, qui a toujours été ça. Hein, c'est à ça que ça sert, l'université. Et on va dire, dans le cas du Québec, il y a aussi les collèges et tout, les cégeps. Moi, j'enseigne au cégep, mais c'est ça notre mission aussi pour le cégep, c'est de transmettre le savoir. Et donc, là, on aurait un cas, dans l'exemple que j'ai donné, où on ne peut pas citer la jurisprudence parce que le mot nègre est utilisé 20 fois dans le jugement de la Commission ontarienne des droits de la personne.
C'est
de l'obscurantisme. On ne peut même plus enseigner ce qu'on doit enseigner parce que selon certains lobbies d'extrême gauche, ben voilà, on peut plus dire certains mots.
Écoute, Frédéric, comme bon, t'es historien, mettons, t'es professeur d'histoire. On sait que les nazis ont produit beaucoup de films de propagande qui montraient les juifs comme étant des vermines, comme étant des rats qu'il fallait exterminer. Il y a des films de propagande faits par les nazis. Alors toi, comme prof d'histoire, il me semble que c'est important de montrer ces films-là aux étudiants pour leur montrer à quel point c'était un régime dégueulasse, un régime extrêmement raciste, de montrer des films de propagande, mais là, à la limite, tu pourras même plus faire ça comme historien, parce que c'est certain qu'il va y avoir quelqu'un dans ta classe qui va être heurté, qui va être secoué, bouleversé par ce film-là, et toi, ben on va dire que on va faire fi du contexte, on va faire fi de ton intention pédagogique, on va dire que t'es raciste. Fou.
Oui, absolument. Non, c'est absolument faux. Et d'ailleurs, dans certains documentaires, pas documentaires, mais plutôt films de propagande de l'époque, là, alors moi, je pense à des films de propagande faits par les nazis, donc à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pour, c'est le cas de le dire, noircir le portrait des Juifs. On disait que les Juifs descendaient des nègres, hein, c'était le mot employé, pour montrer qu'ils étaient encore plus, évidemment, inférieurs à ce qu'on pouvait penser de prime abord. Autrement dit, le message de la propagande nazie dans ce cas-là précis, c'était de dire, oui, ils ont l'air d'être comme nous, mais en fait, ils descendent des Noirs, des Africains, donc, j'ai en tête particulièrement quelque chose qui avait été fait en France occupée, où on dit le mot nègre, voilà, les Juifs descendent des nègres, et puis, et donc le but, évidemment, c'était de justifier la discrimination, éventuellement l'extermination des Juifs. Donc voilà, on pourrait plus, comme vous le dites, on pourrait plus, dire ça. Alors c'est encore un autre exemple à quel point on atteint des niveaux de d'absurdité. Et la raison pourquoi on est rendu là, c'est que ça fait des années et des années que la situation prend de l'ampleur. Et là, on a atteint un niveau où ça c'est devenu la situation a pourri en quelque sorte, parce que il n'y a pas personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y en a pas assez en tout cas, dans le milieu académique qui osent s'élever contre ce genre de pratique-là.
Et pourquoi? Alors, moi, je m'attendrais des gens du milieu académique qu'ils soient courageux, qu'ils soient des défenseurs de la liberté d'expression, qu'ils soient des défenseurs de la vérité des faits.
Ouais, le problème avec le milieu académique, c'est que ça manque beaucoup de diversité au niveau idéologique. Alors, typiquement, dans l'enseignement supérieur, vous allez avoir deux tendances majoritaires, là. Vous allez avoir la gauche et l'extrême gauche. Et donc, ça va être... Non, mais ça, c'est la réalité, là. Mm. En tout cas, dans les facultés de sciences sociales, sciences humaines, je parle pas du génie, là. Dans les sciences appliquées, c'est probablement autre chose. Mais moi, ce que je connais plus, c'est tout le monde des sciences humaines, sciences sociales, là, que ce soit à l'université ou dans ce qui me concerne au niveau collégial. Donc, là, vous avez des gens d'extrême gauche qui amènent toutes sortes de débats. Au début, c'est pas pris trop au sérieux. Bon, ben voilà, les micro-agressions, ça prend ce qu'on appelle en anglais des safe space, le droit de ne pas être offensé, etc.
C'est ridicule.
Et comme ça vient de l'extrême gauche, ben là, les gens, ceux qui sont pas d'extrême gauche, eux, ils sont à gauche. En tout cas, du moins, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas ni de gauche ni d'extrême gauche. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Alors là, ceux de gauche n'osent pas contredire ceux d'extrême gauche. Et là, parce qu'ils disent, ouais, ben l'intention est bonne. Évidemment, c'est peut-être un peu exagéré, mais l'intention est louable. Et donc, comme l'intention est louable, on fera rien, on dit rien, on s'occupe, on fait nos petites affaires. Alors, et là, tout d'un coup, ben là, pas tout d'un coup, mais lentement, mais sûrement, ça prend de l'ampleur. Et là, y en a qui finissent par se réveiller, même encore là, pas tous. Et il se dit, ben là, ça n'a plus de bon sens, on ne peut plus rien dire, n'importe qui peut être accusé de n'importe quoi, et ça donne lieu à... lieu à une espèce de règne de la terreur intellectuelle, si on peut dire, où là, tout le monde peut être accusé de n'importe quoi.
Mais le premier responsable, c'est quand même bien le recteur, là, parce que quand tu sens que ton recteur te protège, peut-être qu'effectivement, tu dénonces ce genre de choses-là, mais quand tu dis, le recteur lui-même... plie les genoux devant les lobbies, devant le militantisme d'extrême-gauche, c'est au recteur à défendre ses professeurs, bon Dieu.
Ben c'est ça, mais le problème à l'Université d'Ottawa, c'est que le recteur, M. Frémont, est d'extrême-gauche. Alors, en tout cas, à tout le moins, la gauche multiculturelle canadienne, là, alors il est totalement dans cette lignée-là. C'est ce qu'il mettait de l'avant quand il était à la tête de la Commission québécoise des droits de la personne. Il disait qu'il fallait pas critiquer les religions. Le fameux projet de loi qu'on avait dénoncé, liberticide, là, la Commission des droits de la personne québécoise avait poussé derrière ça. Finalement, c'était mort au feuilleton. Alors donc, c'est ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui est dans cette mouvance-là idéologique et donc qui ne défend pas, ne joue pas son rôle de recteur, mais joue son rôle d'idéologue. Et là, au lieu de défendre le prof, ben il se couche. Et il faut dire que ça peut varier beaucoup selon les établissements. Alors moi, je peux vous en parler parce que j'ai été chargé de cours à l'UQAM pendant plusieurs années, dans les années 2000.
OK.
Et là, je suis professeur au Collège Dawson. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais à l'UQAM, moi, je me souviens très bien, une année, c'était à l'époque de la guerre en Irak, et l'ambassadeur américain au Canada devait faire une conférence à l'UQAM. Et là, évidemment, il y avait plusieurs excités d'extrême gauche qui avaient dit, ben non, l'ambassadeur américain au Canada n'a pas le droit de parler à l'UQAM. C'est interdit pour lui. Nous, on va lui interdire l'accès à l'UQAM parce qu'on n'a pas le droit d'entendre ce que lui veut dire. Et là, évidemment, le recteur, qui était d'extrême gauche, en tout cas à l'époque, avait invoqué des problèmes de sécurité pour empêcher l'ambassadeur américain. Et là, l'ambassadeur américain avait dit non, moi, c'est pas vrai, là. Il n'y a pas de problème de sécurité, là. Moi, mes services de sécurité m'assurent que ça va être correct. Moi, je vais en avoir de la sécurité. Mais malheureusement, l'UQAM s'était couché. Il y avait un incident semblable aussi à Concordia où il y avait Benjamin Netanyahou qui n'était plus premier ministre d'Israël. Hein. Il a été premier ministre, il a perdu, puis après ça, il est revenu. Alors, on était dans l'entre-deux, là, avant qu'il redevienne premier ministre. Et il devait faire une conférence à Concordia. Et là, il n'était pas question de laisser un juif parler à Concordia, un ancien premier ministre d'Israël.
Et incroyable.
Donc, il avait été empêché de parler, même si lui avait essayé de se rendre sur place. Il avait plus manqué de pas de fond autour de la tête. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Collège Dawson, par contre, la direction, elle, défend le droit à la liberté académique des enseignants. Donc ça peut varier d'une institution à l'autre, c'est ce que je veux dire.
Mais comment on peut s'assurer que la liberté d'expression soit protégé dans les universités? Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un projet de loi qu'on pourrait adopter? Comment on peut s'assurer? Parce que ça a l'air, là, il faut pas seulement s'en remettre à la bonne volonté des recteurs, parce qu'on le voit, là, ça fonctionne pas à Ottawa, donc on fait quoi?
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est particulier dans le cas d'Ottawa, c'est que il y a 2 ans, le premier ministre d'Ontario, Doug Ford, a demandé aux universités de soumettre une politique de respect de la liberté académique, la liberté d'expression dans les universités. Alors là, il faudrait voir où est-ce que ça en est, disons, la mise en œuvre de ce projet, de cette politique du gouvernement ontarien de M. Ford. Mais ce que l'idée était à la base, la suivante, c'était de dire, si vous ne soumettez pas cette politique-là de défense de la liberté académique, eh bien, vous allez avoir des pénalités financières. Alors, de deux choses l'une, en ce moment, si on regarde ce qui se passe à Ottawa, soit que la politique n'a pas été effectivement mise en œuvre et qu'elle n'est pas terminée, le processus peut-être, je ne sais pas s'il y a eu des consultations par la suite, je ne sais pas où ça en est, mais M. Ford avait énoncé cette volonté d'aller dans ce sens-là. Peut-être que c'est pas la politique n'a pas encore été mise en place de façon concrète et réelle, ce qui fait en sorte que l'Université d'Ottawa peut il se passe ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Ou bien Ford a tout simplement laissé tomber, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé. Je dois vous avouer que j'en ai perdu un petit bout là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller dans ce sens-là.
Ben oui.
Il faut faire respecter ce genre de. Et moi, j'avais promis ça d'ailleurs dans la course à la chefferie. J'avais dit bon, il faudrait faire ce genre de choses-là. Là, M. Legault, Mme Anglade, les autres partis, le PQ, je pense que c'est très unanime la réaction de la classe politique au Québec et j'en suis très heureux. Le problème, c'est que ça va durer 2 jours et puis ça va pas changer à long terme ou à moyen terme les choses. Donc, ça serait une bonne occasion, je pense, pour M. Legault. Il a l'air d'avoir un appui de tous les partis, d'aller dans ce sens-là.
Et tout à fait. Et Frédéric, je te dirais, là, moi, j'ai eu connaissance à un moment donné que Youri Chassin, que tu connais certainement, un ancien de l'Institut économique de Montréal, planchait là, pour la CAQ sur un projet de loi, là, justement, pour protéger la liberté d'expression sur les campus. J'imagine que ça a été mis de côté à cause de la pandémie et tout ça. Là. Ils ont mis ça de côté, mais j'espère qu'effectivement, M. Legault va faire quelque chose. Là, ça se passe à Ottawa, mais on peut pas laisser les universités être pilotées par des petites gangs d'extrémistes. Ça n'a aucun maudit sens, là.
Alors, non, absolument. Non, c'est tout à fait inacceptable.
Ben, merci beaucoup, Frédéric Basset. Puis, c'est une excellente campagne, d'ailleurs, que tu as menée lors de la course à la chefferie au PQ. On se reparlera. Merci, Frédéric. Bonne journée.
Bon, ben, merci beaucoup. Au revoir.